sur cette question du motif de l'incarnation. Si j'ai bonne mémoire, saint Thomas, ça n'a jamais été un sujet de conflit. Hein. C'est vraiment de l'ordre des hypothèses théologiques, parce que le dogme est le même pour tout le monde. Mais c'est fermé, non, ça marche ? Mais saint Thomas dirait, là, sur ce point, l'hypothèse... Alors, il ne cite pas Bonaventure, ça ne se fait pas à l'époque, on ne cite pas les contemporains, mais c'est assez transparent, c'est une hypothèse tout à fait recevable, mais comme dans l'Écriture, la venue du Christ est liée à la rédemption du péché, nous préférons en rester à ce que dit l'Écriture. L'argument de saint Thomas est en faveur de l'Écriture, point. Alors... Je pense aussi à autre chose à propos de l'amitié de Thomas et de Bonaventure. Il me semble, Laure, que vous en parlez un moment dans votre bouquin, mais j'ai un doute et j'ai pas retrouvé le passage. En revanche, j'avais noté ce qu'en dit Gilson, justement. Ça casse un peu. Page 27. Rien absolument n'autorise à croire qu'une animosité personnelle ait séparé saint Bonaventure de saint Thomas, et le supposer serait faire une hypothèse purement gratuite. Mais la tradition de leur amitié ne nous semble pas beaucoup mieux fondée, et s'il est possible que cette fois encore la légende exprime une vérité plus profonde que celle de l'histoire, il importe cependant qu'un simple historien ne confonde pas les deux ordres de vérité. Mais on peut aller plus loin. Si rien n'a prouvé jusqu'ici qu'une amitié personnelle ait uni saint Bonaventure et saint Thomas, on peut soutenir avec une extrême vraisemblance que, s'ils estimèrent réciproquement leur personne, cette estime ne s'étendit pas jusqu'à leurs idées. Bon. Alors, tout commence par une scène de cauchemar. La dispute en pleine rue, jusqu'au crépage de Chignon, de trois vieilles dames dans une rue du Paris médiéval. Trois vétoulées. La vétoula, chez un théologien du Moyen-Âge, c'est la petite vieille, c'est la traduction de vétoula, qui désigne ce qu'on appellerait aujourd'hui à tort la foi du charbonnier, si vous voulez. C'est la personne qui ne sait rien et qui en même temps va soulever des montagnes. Comme disait d'ailleurs très finement Rémi Brague un jour au 40e anniversaire de Communio, le coup de la foi du charbonnier, arrêtez de me faire ça, personne parmi vous n'est charbonnier, il vous faut donc une foi à la hauteur de vos études. Rideau. Mais donc, trois vétoulées se crêpent le chignon. Celle de Bonaventure est supérieure au philosophe parce qu'elle a la charité. Celle de Thomas est supérieure au théologien, elle qui est ignorante, si vous voulez, parce qu'elle a la foi. Mais alors, c'est la foi du charbonnier, c'est-à-dire la foi intégrale de l'Église. Et celle d'Albert le Grand, elle, est portée sur les sciences naturelles, l'art des plantes et des potions. Admiratrice de son médecin, elle en imite le savoir-faire à propos de la délicate question de l'analogie sur le père prius et le père posterius, donc sur l'ordre d'entrée en scène des êtres. Donc chacun a la petite vieille de sa théologie, si vous voulez. Donc qu'est-ce qui est le meilleur ? J'ai trouvé ça assez drôle de m'apercevoir un jour que, en fait, chacun faisait vivre son personnage de petite vieille, l'un sur la foi, l'autre sur la charité, l'autre sur les sciences naturelles. Ça leur va comme un gant. Fin de cette petite anecdote. Alors, votre thèse, Laure, nous nous étions dit il y a quelque temps, on était tombés d'accord sur le protocole, j'allais en lire quelques passages significatifs. Ben, je dois dire qu'hélas, je n'ai pas pu le faire, je me suis pris à la lire intégralement. Ce qui n'est pas un mince compliment, car un peu comme en prédication, je m'endors vite.